Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf ! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée, réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock et dites-lui s'il vous a plu pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouvez le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Ah mais voilà. Oui, c'est vrai que t'es au Portugal, toi. Comment ça se fait que t'es partie là-bas ?
Je suis partie au Portugal. Je venais d'accoucher en plus de ma deuxième. Ouais. Deux mois plus tard, j'étais en deux mois postpartum. Parce qu'ils avaient passé la loi sur l'obligation scolaire. Enfin, pas l'obligation scolaire, je m'entends. Ouais. Et du coup, en plus, j'avais accouché en plein Covid. Ça tout me saoulait. Voilà, j'ai dit, allez, la France, ciao.
Vous m'avez saoulé, les gars, je me casse.
Vous m'avez trop saoulé, je me casse. Bah, franchement, ça s'est exactement passé comme ça. Vraiment. On a pris nos trois animaux, nos deux enfants, dont ma fille qui avait du coup même pas deux mois. Et on a tout mis dans la voiture, on s'est cassé.
Oh la vache. C'est fou parce que parfois, tu peux en avoir marre et avoir envie de partir, mais de là à passer le pas.
Ouais. Mais là, on a tout vendu et tout. C'est-à-dire, c'est pas on avait de la famille, on leur a dit, vous gardez les meubles. On a vendu, même donné... Moi, j'ai donné toutes mes affaires. J'ai gardé deux paires de chaussures. Enfin, j'ai vendu toute ma vie. J'ai donné ma vie, quoi. Vraiment, c'était... J'en ai marre. Il y a personne qui me dit quoi faire.
C'est un peu le... Genre, on recommence à zéro, quoi.
On efface tout. Mais en fait, tout me saoulait. Tout me saoulait, en fait. Toute la grossesse en plein Covid m'avait saoulée. C'était insupportable. Que mon mari puisse jamais venir, qu'on m'oblige à accoucher avec un masque, que mon mari puisse pas accoucher qu'il puisse pas assister à l'accouchement et tout, c'était franchement ça faisait toute la grossesse que ça m'avait saoulée, quoi.
Ouais, je comprends. Bah, on va se raconter ça. Tu vas me raconter rapidement, enfin on va pas s'appesantir, mais juste pour qu'on comprenne un peu ton premier accouchement, pour qu'on comprenne un peu ton contexte, et puis tu raconteras ensuite peut-être avec plus de détails, pardon, ton deuxième accouchement, et puis après on parlera peut-être un petit peu, on prendra peut-être quelques minutes pour parler de, parce qu'on s'était contacté un peu avec ça sur les traumatismes, les
Ah
personnes
oui.
toxiques et tout, la famille, machin.
Ah oui.
Est-ce que d'abord, Zeynab, tu pourrais me faire un petit, tu vois, un petit point de toi avant d'avoir des enfants? Tu vois, c'était quoi pour toi la maternité? Comment t'envisageais tout ça? Est-ce que tu avais toujours envie d'avoir des enfants? Enfin, c'était quoi pour toi dans ton schéma?
Alors, je voulais absolument pas avoir d'enfants. Donc, je me rappelle très bien quand j'étais au lycée, je disais, moi, je n'aurai jamais des enfants. Et je pense que j'étais vraiment trop traumatisée pour pouvoir un jour envisager que moi-même je puisse donner de l'amour à quelqu'un. En fait, c'est comme ça que je le comprends maintenant, des années plus tard. Et ensuite, je suis tombée par hasard enceinte la première fois. Donc, c'était. Je faisais de la symptothermie. Donc, il y a dû avoir une petite boulette quelque part. Et du coup, je suis tombée enceinte. Grande surprise. Et j'ai perdu le bébé à 3 mois de grossesse. Et en fait, c'est à partir de là, c'est vraiment à partir de là que je me suis vraiment posé la question sur la maternité, sur est-ce que je veux un enfant ou pas. Moi, j'ai fait les choses comme ça.
Ouais, ok.
Voilà, c'est vraiment quand j'étais enceinte que je me suis dit, mais oui, je suis faite pour être mère, en fait. C'est pas moi qui voulais pas d'enfant. Voilà. En plus, j'ai un ascendant cancer, donc. La maternité, ouais, je suis la maman de tout le monde en fait, donc
Ah ouais.
c'était hyper logique. Voilà.
D'accord.
Ça a commencé comme ça.
D'accord. Et tu dis que toi, tu étais traumatisée et que tu voulais pas d'enfant, donc c'était un contexte familial qui était
Oui,
délétère et tout.
j'ai grandi avec ma mère qui était pervers narcissique, qui voilà, les violences, elles étaient physiques. Émotionnel, physique, etc. J'étais vraiment sous l'emprise, j'étais sa chose, donc je pouvais pas imaginer que je pouvais être autre chose que sa chose, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai arrêté avec elle à 8 mois, à 2 semaines avant d'accoucher de mon premier.
T'as arrêté tu as rompu le contact, c'est ça?
J'ai arrêté le contact parce que elle m'a frappée. Enceinte, elle a frappé mon ventre enceinte à 8 mois et demi. Et c'est là où j'ai eu la force de dire, c'est fini. Voilà.
Ok. Et il y avait ton père aussi dans l'équation ou même pas?
En fait, dès que j'ai divorcé avec elle, tout le monde l'a suivi, sauf mon père. Mais mon père est décédé 2 mois postpartum. Donc, c'est-à-dire la même année, j'ai eu donc la rupture avec ma famille, j'ai eu l'accouchement. Donc, bah, premier, voilà, plein postpartum, plus mon père qui décède le jour de mes 30 ans, parce que sinon, ça aurait été trop.
Ah la vache.
Ça a été. Voilà. Donc, si tu veux, cette année-là, si tu veux, j'ai tout cumulé. C'était vraiment le tsunami, à tous les niveaux.
Mais pendant ton enfance, est-ce que ton père, il essaye de te protéger, de te défendre, enfin.
Non, il a jamais. Déjà, j'ai une belle amnésie J'ai une belle amnésie. Je me rappelle pas de mon enfance, voire mes premiers vrais souvenirs, ça doit être du collège, voire même lycée. Hein. Mais de mes souvenirs, il était là pour moi, pas pour mes frères et sœurs, mais pour moi, oui. Mais il a jamais tenu tête à ma mère. C'était, mais tu sais, elle t'aime. Elle te fera parce qu'elle t'aime.
Ok.
Voilà. Donc non, il a jamais, il a jamais pris la défense. Non. Mais il était sous emprise aussi.
Ouais. J'ai hyper envie qu'on discute de tout ça, mais bon, là, on ne se parle pas pour ce sujet-là aujourd'hui, mais comme c'est des sujets qui me touchent aussi très fort, c'est voilà. Mais bon, on aura d'autres occasions.
Et en fait, il y a tellement, tellement de personnes qui vivent ça, mais il y a un tabou autour de ça. Moi, tu vois, là, j'en parle, j'ai divorcé avec ma famille il y a 7 ans. Là, j'en parle aujourd'hui, mais il y a eu 7 ans. J'aurais jamais parlé de ça il y a 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une reconstruction après, hein, et je pense que la reconstruction, elle se fait toute sa vie d'ailleurs.
Ouais. Et puis il y a l'état de choc, le moment où. Et c'est un moment qui est très long de prendre conscience bah, de la toxicité, de l'emprise, de voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie et qu'est-ce que ça veut dire sur toi, sur qui
Absolument.
tu es et tout. Enfin, c'est pas instantané, quoi. Et je. Je fais
Non,
ce
non.
parallèle-là parce que hier, je préparais un autre épisode pour le podcast, bref. Et on parlait beaucoup de ça avec Tessa, de se dire que, enfin, tu vois, c'est pareil, quand on est trop traumatisé pendant un accouchement, on n'en prend pas conscience tout de suite et on ne prend
Non.
pas conscience des impacts tout de suite. Et ça peut mettre 3 semaines, comme ça peut mettre 3 ans, comme ça peut mettre 30 ans à comprendre ce qui s'est passé. Et parfois, on ne comprend jamais. Mais oui, le traumatisme. C'est pas parce qu'il intervient et qu'on le comprend, enfin, qu'on le voit,
Qu'on
qu'on
le
le comprend,
conscientise.
tu vois,
Qu'on
ouais.
le conscientise. Après, il y a, tu vois, par exemple, le trauma d'accouchement, c'est un trauma, c'est un seul événement. Donc, il y a eu un trauma d'accouchement, donc c'est un événement que tu
Ça, pour
arrives à
l'accouchement.
identifier. Là, dans le cas, tu vois, quand tu grandis avec une famille dysfonctionnelle, c'est tous les jours un petit peu, un petit peu, un petit peu, et en fait, ça fait du trauma complexe. C'est vraiment, c'est complexe. Et en fait, quand tu dis, il y a le choc, mais pour moi, il y a même un autre truc, c'est le déni. Parce qu'en fait, quand tu acceptes de dire la vérité, enfin, de dire, j'ai subi un traumatisme ou j'ai subi de les violences, etc., ben, en fait, tu peux pas revenir en arrière, c'est fini, c'est bon, tu as avoué. Versus, je fais l'autruche pendant des années en disant, oui, mais bon, peut-être que l'accouchement, peut-être que mon enfant, moi, j'accompagne plein de femmes qui ont eu justement des traumas d'accouchement. Et à chaque fois, elles essayent de trouver des excuses. Parfois, c'est oui, mais peut-être que le bébé allait bien, allait mal. Est-ce que dans le dossier, le bébé allait mal? Non. OK. Tu vois,
Bien sûr.
jusqu'au jour où elles avouent vraiment, j'ai subi un traumatisme d'accouchement, enfin, un accouchement traumatisant. Et ça
Ouais.
arrive tellement, tellement fréquemment.
Ok, donc toi, pour revenir à donc ton donc ta première grossesse, donc elle s'interrompt naturellement à 3 mois, et c'est là que tu te dis que tu veux en fait peut-être bien devenir mère.
C'était même pas je veux, c'était je dois être mère. Alors là, avec des années, je ne sais pas si c'était pour me guérir de ce trauma-là qui a été. Parce qu'on a fait l'échographie, tout se passait bien. Et voilà, c'est une échographie de contrôle où le cœur s'était arrêté. Et du coup, c'était je dois être maman, quoi. C'était non négociable. Mais j'y arrivais pas.
D'accord.
Donc, s'en est suivi 2 ans de PMA.
Donc, tu étais avec ton compagnon et au bout de 2 ans, ça a fini par fonctionner, c'est ça?
Ça a fonctionné quand je crois que on les a enchaînés en plus. Je crois que j'ai fait 4 FIV et je sais plus combien d'inséminations. Enfin, je m'en rappelle même plus. Et ça fonctionnait pas. Je faisais des fausses couches vraiment très au tout début. Et ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien de médical qui justifiait. Du coup, j'en avais marre, mon corps en avait marre et j'ai lancé un processus d'adoption. Et c'est le jour de la réunion avec la personne pour notre dossier que j'ai dit à mon compagnon, mais c'est bizarre, j'ai pas eu mes règles ce mois-ci. Voilà.
Ok, trop bien. Et comment se passe cette première grossesse?
Très très stressante. Franchement, et d'ailleurs, mon enfant est très stressé. Il est né anxieux, hein, mais j'étais stressée tous les jours de le perdre. C'était horrible. En plus, j'avais le placenta qui était devant. Donc, j'ai commencé à le sentir. Je crois que j'étais enceinte de 6 mois ou un truc comme ça. C'est long. C'était très, très long. Puis, à chaque fois, je devais le sentir. Est-ce qu'il est vivant? Enfin,
Ouais.
franchement, j'avais peur de le perdre. C'était une angoisse.
Je comprends. Et par rapport à ta mère?
Bah, elle n'était pas présente pendant ma grossesse parce que moi j'habitais en France et ma mère habite, enfin ma famille habite au Maroc, donc
D'accord.
j'ai passé une grossesse en France quoi.
OK.
C'est à la fin de la grossesse qu'elle est venue pour me soutenir, pour surtout prendre des photos et montrer aux autres qu'elle est devenue grand-mère. Et c'est là vraiment où j'ai remarqué le manque de soutien et je me suis dit il y a quelque chose qui cloche.
Et
Voilà.
donc, c'est là que tu as eu ta prise de conscience de qui était ta mère et tout ça, ou c'était...
La prise de conscience était déjà là et depuis, je pense, depuis que je suis petite, je disais ma mère elle m'aime pas, il y a personne qui m'a cru, qui me cro... il y a personne ne me croyait et c'est là où je me suis dit si tu le fais, si t'as pas le courage de le faire pour toi, fais-le pour ton enfant parce que ce qu'elle t'a fait, elle va lui faire. C'est une grosse claque.
Donc toi, donc tu es dans ta première grossesse, donc tu es hyper stressée. Pardon, cette grossesse-là, tu es hyper stressée. Comment tu envisages l'accouchement?
Je voulais un accouchement à domicile, mais j'avais tellement peur de perdre mon enfant que j'ai choisi à la dernière. Enfin, j'ai choisi. J'avais trouvé la sage-femme et tout, et ensuite j'ai changé mes plans et j'ai décidé d'accoucher à la maternité. J'ai pris une maternité amie des bébés. J'ai passé la grossesse à me renseigner, à lire tous les livres possibles et inimaginables. Je venais de finir mes études de naturopathie, donc j'avais quand même un petit bagage de connaissances en tout ce qui est naturel, etc. Donc, j'avais pris rendez-vous de portage. Enfin, pour moi, le maternage était une évidence. Autant je ne voulais pas d'enfant avant, autant c'était une évidence. Et quand bébé est arrivé, je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment maternante et que c'était inné chez moi. Voilà.
Ok.
Donc, voilà.
Donc pour l'accouchement, donc tu te dis au début accouchement à domicile et puis au final non. Donc maternité amie des bébés. Et donc comment ça se passe? Donc on s'est dit qu'on s'en parlait rapidement, mais juste pour comprendre un peu comment ça s'est passé pour toi.
Ça se passe, ça a pris 54 heures.
Déclenché?
Non.
Ok.
Ben, j'avais du mal à devenir mère, j'avais trop peur en fait, avec voilà, avec un œil beaucoup plus. Quand j'ai pris de la hauteur, je me suis rendu compte que c'était difficile. Quand tu deviens mère sans ta mère, c'est un vrai sujet. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast, hein, devenir mère sans sa mère. Hein. Ça peut être sans sa mère parce qu'elle est morte, sans sa mère parce qu'elle est loin, ça peut être. Voilà. Donc j'étais pas prête en fait, j'étais seule, j'étais pas prête. Et puis c'est arrivé un soir de pleine lune ou je sais pas quoi, donc il n'y avait pas de chambre. Donc bien sûr, mes contractions, je les fais dans le couloir, il y avait trop de lumière et tout. Moi, j'ai bugué, j'ai stressé, j'avais des contractions dans le dos. On m'a donné les trucs pour comment le gaz, ça ne faisait absolument rien. On me couchait sur le dos alors que mes contractions étaient sur le dos, donc je hurlais à la mort. Et au bout de je sais pas, 20 heures comme ça, mon mari a intervenu en disant, stop, là, on prend une péridurale. Et j'ai dit, oui, on prend une péridurale. Parce qu'en fait, je savais pas qu'il fallait bouger quand on avait des contractions, etc. C'était sur le dos, ouvrez vos jambes. Donc, un accompagnement, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais c'était un soir où il n'y avait même pas de chambre. J'ai accouché dans le petit truc où ils font les prises de sang, le tensiomètre, etc.
Ok.
Mais, voilà.
Ouais, mais donc du coup, oui, t'avais personne pour t'accompagner émotionnellement, te dire tout va bien. Enfin, oui, ce dont on a besoin, quoi.
Exactement,
Ok.
exactement. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte, c'est suite à mon deuxième accouchement que j'ai pu voir tout ce qui n'allait pas durant mon premier accouchement. C'est là où je me suis dit, attends, mais là, pareil, bébé, il naît, il sort de moi, on clampe pas tout de suite, mais presque on clampe tout de suite, on me prend bébé tout de suite, l'allaitement, c'était une horreur, voilà, j'étais très très mal accompagnée.
Tu voulais allaiter et du coup, t'as pas réussi. Comment ça s'est passé?
Si, mon bébé avait des freins.
Oui.
Et donc, j'avais les
Des
mamelons
freins
en sang
basses.
pendant 2 mois quasiment. S'en est suivi candidose mammaire et tout le tintouin. Il avait un torticolis aussi. Il est né avec un torticolis parce qu'à force de frapper sur le col pendant X heures, il est né comme ça, il ne bougeait pas. Sa tête ne bougeait pas, je ne pouvais pas l'habiller en fait.
Oh, bébé.
Il avait sa main qui était bloquée. Il a fallu enfin, plusieurs ostéopathes. Il s'est débloqué vers ces 2-3 mois. Et du coup, bah, allaiter un enfant qui a un torticolis, plus des freins, c'était.
La vache.
Voilà. C'était horriblement douloureux, mais il était polyallergique, donc je ne pouvais pas lui donner du lait de vache. Voilà. Donc, et moi, je voulais absolument allaiter. C'était un non négociable. Je vais allaiter, je vais réussir, je vais allaiter, je vais allaiter. Parce que ma mère, pendant toute ma grossesse, m'a répété que je ne pouvais pas allaiter. Parce que elle me disait à quel point c'était douloureux de m'allaiter moi et que du coup, forcément, et je pense que c'était, avec du recul, je me dis c'était vraiment aussi, tu vas voir que je vais arriver moi à m'occuper de mon enfant.
Oui, bien
Donc
sûr.
j'ai persisté, j'ai persisté, j'ai accouché et j'ai allaité 2 ans et demi.
Trop bien. Cool. Ok. Donc, comment tu sors de cet accouchement-là? Du coup, tu l'as mal vécu?
Je ne l'ai pas vraiment mal vécu, j'étais déconnectée et je n'ai pas réussi du tout à être en lien avec mon bébé.
Ok.
J'en ai parlé absolument à personne parce que je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce que je pensais. Et en fait, j'étais comme une machine, en fait, comme un robot. J'étais caca, pipi, sein. En fait, je réfléchissais pas, il n'y avait pas d'émotion. J'étais vraiment comme un robot. Hein. Mais moi, je pensais que c'était normal. La fatigue qui arrive, le manque de sommeil, le manque de soutien émotionnel, gros baby blues qui s'en est suivi quand je suis rentrée à la maison, c'était difficile. Donc, un postpartum pour moi, vraiment horrible, horrible.
Est-ce que tu penses que tu as fait une dépression ensuite, une dépression du postpartum?
Ça n'a pas été diagnostiqué dépression, mais j'en étais pas loin.
Ok.
Je pense que j'en étais pas loin.
Ok. Et quand est-ce que vous vous dites, ok, on va remettre le couvert pour un deuxième?
Ah, on
Ou
s'est
peut-être que
rien
vous
dit,
voulez,
hein. Ah
voilà,
non, non,
ou alors
c'était
peut-être que vous ne le
même...
dites pas.
Ah, c'était même pas en rêve qu'on ait un deuxième enfant,
Ah
tellement...
ouais.
Ah ouais, non, c'était grandir avec un bébé qui a un torticolis, RGO, polyallergique, syndrome de Kiss, et je ne sais pas quoi, et maman stressée pendant la grossesse, c'était très, très dur. Trouble de l'oralité, il n'a pas mangé pendant... Je pense son premier aliment, il l'a pris à 2 ans passé.
Ah
Donc
ouais.
c'était allaitement à la demande, c'est-à-dire toutes les 20 minutes pendant 2 ans. C'était vraiment, vraiment dur, donc c'était no way. Et en fait, voilà, j'avais pas eu mon retour de couche, donc
Ouais.
voilà. Et vu que moi, j'ai pas des enfants facilement, n'est-ce
Bah
pas?
ouais.
Voilà, donc surprise.
Ah ouais, ok. Et comment t'accompagnes cette surprise?
Et en même temps, ce n'était pas une surprise pour moi, parce que je sentais l'âme de mon enfant arriver. Je connaissais le sexe de l'enfant, je savais à quoi elle ressemblait, etc., etc. Donc, c'était une surprise sans être vraiment une surprise. C'était plus une surprise pour mon mari, franchement.
Ok. Et donc, comment est-ce que tu comprends que tu es enceinte du coup, comme tu n'as pas eu ton retour de couche?
Je l'ai compris direct.
Ok.
Je pense,
Ok.
je l'ai compris avant même la, enfin, 2, 3 jours après le rapport en question, j'ai compris que j'étais enceinte.
Ouais.
J'ai compris.
Ouais, il y a plein de nanas qui racontent ça, c'est assez ouf.
J'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. J'étais sûre et certaine. Mais j'en ai pas parlé parce que, imagine, je me trompe,
Ouais.
imagine, voilà, imagine une autre fausse couche comme j'en ai eu, voilà. Donc j'en parle pas jusqu'au test de grossesse.
Ok. Et donc vous faites un test et vous décidez de garder cet enfant?
Ah mais c'est non négociable, c'était même pas, enfin je même s'il voulait pas, j'aurais ouvert la porte et je l'aurais mis dehors, je l'aurais gardé.
Parce que donc tu passes d'un état où tu ne voulais pas de deuxième enfant à
Absolument.
ah bon bah elle est là.
Je suis trop contente d'avoir un deuxième enfant.
Ok, trop bien.
Et en fait, je me disais que vu le challenge que ça a été la première fois, ça peut pas être pire. Voilà. Donc
Souvent, je crois
je
que c'est vrai, hein.
C'était pas pire, mais on y était presque. On y était presque. Mais, je l'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup mieux.
Ouais, c'est ça
Et je
aussi,
pense que mon
la
accouchement à
différence.
domicile
Étranger à ça.
n'est pas étranger à ça, absolument.
Donc, comment est-ce que tu. Donc, du coup, comment tu chemines? Parce que donc, effectivement, pour ta première grossesse, enfin, pour ton premier enfant, donc ta deuxième grossesse, t'avais cette envie d'accoucher à la maison, et puis en fait, tu as eu trop peur, tu as été un peu submergée. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ces premières envies qui reviennent là pour cette dernière grossesse où tu te dis, mais en fait, bien sûr. Enfin,
Oui,
comment ça se passe pour toi dans ta tête?
c'est exactement comme ça. Je me dis, et en fait, la sage-femme qui devait m'accompagner lors de ma première grossesse, donc m'a accompagnée pour la deuxième, sauf qu'elle était à partir à la retraite, donc elle ne faisait plus les accouchements à domicile. Mais en tout cas, elle m'a suivie et elle me disait, mais pourquoi tu n'accouches pas à domicile? Tu peux y arriver. Je lui disais, mais regarde ce qui s'est passé à la maternité. Moi, je peux 40 heures de contraction comme ça sans péri, je ne peux jamais y arriver. Donc, il y a eu tout un travail les premiers mois où, bon, je m'inscris à la maternité, mais je me suis inscrite à la maternité. Les premiers rendez-vous à la maternité étaient violents pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Autant mon premier, quand j'allais à cette maternité, je trouvais que c'était formidable. Autant là, je ne sais pas s'il y a eu un switch dans la maternité ou en moi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mais je trouvais tous les examens, même de me toucher, de m'examiner, je trouvais ça violent. En fait, je voulais absolument que personne me touche. C'est très bizarre à expliquer, mais voilà, ça me dérangeait. Donc, j'ai commencé à tiquer déjà. Et puis il y a eu le Covid. Et puis, il y a eu le Covid. Moi, j'ai accouché en juin 2020. Donc,
Ah ouais, ok.
J'ai vécu le premier confinement. J'étais enceinte de 7 mois. On m'a déjà arrêtée quand j'allais à la maternité en me disant « Vous allez où? Vous êtes loin de chez vous ?» Et je me suis disputée avec quelqu'un en lui montrant mon ventre. Donc, voilà, il y avait ça qui s'est rajouté. Et après, je me suis dit « Non, je vais pas re-accoucher à l'hôpital. »
D'accord. Ok. Ton compagnon, il était ok avec ça?
Il était ok avec ça. C'était tellement non négociable pour moi que s'il n'était pas ok, encore une fois, c'est pas qu'il a pas d'avis. Il a un avis bien sûr, mais en fait, c'est comme ça que ça va se passer pour moi. C'est important. Donc, est-ce que tu me suis ou est-ce que tu me suis pas?
Ouais. Et si tu me suis
pas, c'était très important pour moi. Bah, presque ouais. Presque.
Ouais, je comprends. C'est tellement important. Enfin, c'est pas juste
c'était
partir en vacances ici ou là.
Ah non, c'était viscéral, en fait. C'était un truc viscéral. En plus, l'aîné pouvait pas venir à la maternité pendant je ne sais pas combien de jours. En plus, imagine mon test, il était positif, je devais rester 15 jours à l'hôpital. Mon mari n'avait pas le droit d'assister à l'accouchement. Je devais accoucher avec un masque, donc sortir mon bébé que j'ai porté pendant 9 mois, il voit pas sa mère. J'ai dit non, mais...
Ok. Et donc, du coup, tu trouves une sage-femme pour l'accouchement à domicile et elle te dit il n'y a aucun problème. Enfin, comment ça se passe, du coup?
Incroyable, c'est que j'ai du coup pris la seule sage-femme du département qu'il y avait, hormis celle-là qui est à la retraite. Et du coup, on commence les trucs à la maison, etc. Et puis, je crois, 3 ou 4 semaines avant d'accoucher, je ne sentais plus cette sage-femme. Elle n'était pas méchante ni rien, hein, c'est juste que... Je voulais plus accoucher avec elle. Voilà. Okay. Du coup, j'avais même pas d'autre sage-femme que je lui ai écrit pour lui dire nous n'accoucherons pas ensemble.
Ok.
Donc j'étais prête à aller même vers un accouchement non assisté. J'étais vraiment sûre de moi. Et là, j'appelle une sage-femme à 2 heures de là où j'habite et elle me dit tu as trop de chance parce qu'à cause du Covid, mon fils ne passe plus le bac et du coup, j'ai de la dispo exactement. Là, quand tu accouches. Mais c'est genre... Mais elle, il faut la prendre 2 ans à l'avance avant même d'avoir un enfant.
Oh là là.
C'est vraiment mais un coup de bol, je crois... je crois 1 mois avant d'accoucher, quelque chose comme ça.
OK.
Donc, elle accepte de m'accompagner alors qu'elle ne m'a jamais vue. Qu'elle n'a pas vu ma maison. Elle accepte de m'accompagner. On fait bien sûr des entretiens longs au téléphone. Elle me pose beaucoup, beaucoup de questions, etc. Donc, elle voit que je suis convaincue de moi, que je suis sûre de moi. Et elle me suit pour l'aventure et j'ai vraiment bien fait d'accoucher avec elle parce que justement elle m'a laissé accoucher toute seule en fait. Elle était juste là.
Ouais, à garder l'espace comme on dit.
À garder l'espace. Et j'avais une doula aussi.
Ok. Et juste pourquoi elle est aussi cotée cette sage-femme? Elle est connue dans la région?
Parce que c'est la région parisienne, il n'y a pas de sage-femme en fait.
Ah ok, j'avais pas compris que tu étais à Paris.
Enfin,
à cette époque-là.
Si. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes. C'est rare, les sages-femmes. Hein.
Bah, il y en a quelques-unes. Enfin, donc, bon, il y a 4 ans, je ne sais pas si c'était très, très différent. Bah, attends, j'ai accouché quand, moi? Ah bah, j'ai accouché en 2021. Bah, il y en a quelques-unes. C'est juste qu'effectivement, Il faut que ça fitte et puis.
Pas 3 semaines d'accoucher.
Alors voilà, non mais c'est ça
Ben c'est
exactement.
ça.
Donc elle te dit, ok banco, je te prends un mois avant, super. Et c'est quoi les protocoles du coup? Qu'est-ce qu'elle te dit elle par rapport au Covid?
Alors, la condition sine qua non, c'est qu'elle soit avec quelqu'un d'autre.
Ok.
Donc, qu'elle ne vienne pas toute seule. Donc, elle est venue avec une collègue que j'ai vue pendant l'accouchement. Elles sont arrivées à une demi-heure d'accoucher. Elles sont arrivées à la fin. Parce qu'elles habitaient loin, il y avait des problèmes. Et vu que la première fois, ça a mis tellement d'heures qu'elles ne pensaient pas que ça allait être aussi rapide. Donc, elles
Okay.
sont venues vraiment. Et elle me disait après que j'ai attendu qu'elles viennent pour que j'accouche. Parce que j'aurais pu accoucher avant.
D'accord.
Donc le protocole, c'était ça, c'est qu'elle soit deux.
Mais donc pas de masque, enfin.
Quand elle a pris le bébé dans les bras, si, je pense qu'elle avait un masque, je crois. Mes souvenirs sont assez flous, je t'avoue.
Ok, pas de problème. Ok, donc très bien. Et là,
Mais moi,
tu.
je n'avais pas de masque, c'est sûr.
Oui.
Moi, je n'avais pas de masque. Mon mari était présent et mon aîné était présent aussi.
Ok.
Parce que j'ai accouché le matin le matin vers 9 h. Voilà.
Ok.
Donc mon aîné était réveillé.
D'accord. Donc, tu fais ce revirement un petit peu là, les dernières semaines avant d'accoucher. Tu choisis cette sage-femme. Et donc là, tu te sens beaucoup plus en confiance. Comment ça se passe du coup tes dernières semaines de grossesse et comment se déclenche ton accouchement? Est-ce que ça vient naturellement?
Tout est naturel. Donc, j'avais eu peur de pas accoucher naturellement, même à la maison, parce que 3 semaines avant de... C'est rigolo, maintenant que je t'en parle, je fais le parallèle avec la première. 3 semaines avant d'accoucher, j'ai eu la rupture avec ma mère. Et 3 semaines avant d'accoucher pour ma fille, je suis tombée. Et je suis tombée sur les fesses. Et en fait, j'ai toute ma colonne qui a bougé tellement que j'avais la tête qui tournait, etc. J'avais mal au bassin. Enfin, tout le monde me disait, vu tes douleurs, je pense pas que tu arrives à accoucher à domicile. Et j'ai réussi.
Ok.
Voilà. Donc, c'était ma peur, en fait. C'était la seule peur que j'avais. Que justement, mais bon, je suis tombée sur les bons ostéos. Voilà.
Ok. Qui t'ont remis, s'il y avait des choses à remettre,
J'ai
qui.
encore des douleurs maintenant, aujourd'hui.
Ah
J'ai
ouais.
encore des douleurs. Ouais, je suis vraiment. Parce qu'en fait, pour pas tomber sur mon ventre, j'ai fait un grand écart. Donc, je me suis ouvert. Je me suis déchiré tous les muscles, là, des adducteurs.
Ah ouais. Oh la
Pour
vache.
protéger mon ventre, en fait, je me suis ouvert en deux et tombé sur le sacrum comme ça. Quand tu fais 25 kilos de plus,
Ouais.
je peux te dire ça. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai des douleurs. Ouais, j'ai des douleurs encore aujourd'hui,
Ok.
clairement.
Oh, voilà. Et pour l'accouchement, t'avais plus rien. Tu sentais. Enfin, t'as pas eu de. Ouais, non, mais
Pas du
le
tout.
cerveau
Et
et le
c'est un truc
corps
de
se
fou, hein.
met. Ouais,
Et
non,
je
mais c'est
sais pas
sûr.
ce qui. Je sais pas comment c'est possible, mais. J'ai eu
Incroyable.
les douleurs de l'accouchement. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir des contractions dans le dos, mais j'avais fait la préparation de, je ne sais pas si tu connais Karine de Quantique Mama. Je me suis formée ensuite avec elle. Donc, je suis aussi Quantique Doula suite à ça. Et en fait, j'avais compris les mouvements à faire. Donc, j'avais fait les mouvements, je me suis bien accompagnée. Et en fait, c'était vachement gérable, en fait. Enfin, gérable, on s'entend, hein. Mais j'avais en tout cas réussi à gérer tout ça.
Ok. Donc ton accouchement se lance tout seul. Comment ça se passe?
Quelques jours avant d'accoucher, j'ai écrit mon accouchement, mais vraiment dans les détails. Et en fait, je l'ai relu quelques mois plus tard. Et c'est hallucinant, j'ai quasiment écrit mon accouchement, quoi. C'est un
Ah
truc de
ouais.
fou, mais vraiment, vraiment. Même à l'heure, j'avais demandé à ce que mon accouchement se déclenche quand mon aîné irait dormir. Et en fait, il s'est déclenché voilà, la nuit. Donc, les premières contractions, j'avais quand même pas mal de contractions les jours d'avant. Donc, je ne savais pas si c'était juste voilà, ces
Le
contractions-là ou est-ce
pré-travail.
que voilà, ou un vrai travail. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris que c'était le vrai travail. Donc j'ai accompagné, etc. J'étais euphorique. J'étais trop contente. J'attendais ce jour avec impatience. Et du coup, j'ai réveillé mon mari, je crois, vers minuit. Et du coup, ça a duré à peu près 10 heures. Voilà.
Ok. Donc vers minuit, tu réveilles ton compagnon. Comment tu te mets? Comment tu gères les contractions? Est-ce que c'est horrible?
Je lui dis, voilà, il est parti mettre des alaises de partout. Parce que du coup, je ne savais pas si j'allais accoucher sur le lit, si j'allais accoucher dans ma baignoire ou si j'allais accoucher dans le salon. Donc, ça lui a pris un bon bout de temps, je crois. Entre-temps, j'ai mis un bain et je suis restée, je crois, 2, 3 heures au moins dans le bain. Et c'est là où j'ai perdu complètement la notion de temps. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, je me rappelle plus de rien. Et en fait, les 10 heures, j'ai l'impression que c'était 1 heure ou 2. Donc, il y a un espace-temps, je ne me rappelle vraiment pas. Madoula, donc je l'appelle tout de suite Madoula, mais bien sûr sa voiture tombe en panne. Donc Madoula, je crois qu'elle arrive un quart d'heure avant l'accouchement, un truc comme ça. Et ma sage-femme a écrit même dans son rapport que j'ai attendu, que j'étais complètement ouverte et prête, mais que j'ai attendu qu'elle arrive. Et une fois qu'elle
C'est
est
drôle.
arrivée, j'ai dit c'est bon, je pousse. Un truc de fou. J'avais besoin que mon espace y soit. Voilà. C'était ma
Complètement sécure
sécurité.
et ouais.
Exactement. C'est une super doula. Et voilà, là, le travail commençait dans la baignoire et ensuite je supportais plus la baignoire. Moi qui voulais accoucher dans l'eau, j'ai détesté ça. J'ai suivi mon intuition, donc je suis descendue sur le canapé, j'ai fini le travail sur le canapé, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup bu, j'ai mangé aussi, j'ai beaucoup été aux toilettes, ça me sécurisait d'avoir des contractions aux toilettes. J'ai su plus tard que parce que l'espace était fermé, ça sécurisait, mais je l'ai su que plus tard. Et puis voilà, ça s'est continué comme ça. Et les sages-femmes sont arrivées. Et quand elles sont arrivées, j'étais en phase où je ne vais pas y arriver. J'ai dit à ma sage-femme, je lui ai dit, je ne vais jamais y arriver, ça fait trop mal. Elle me dit, c'est génial. Elle me dit, t'y es presque, tu vas y arriver. Tu ne sais pas à quel point ton corps il peut endurer la souffrance parce que tu ne l'as pas vécu. Mais tu vas y arriver. Du coup, des massages dans le dos, elles installent leur chaise là pour que j'accompagne le. Et là, c'était la torture. C'était la chaise de la torture. Je ne sais pas si tu connais la chaise.
La chaise en creux, en fait, où
Ouais.
tu t'assois, c'est comme un tabouret, mais avec un trou, enfin, un
Avec un
trou, et
trou au
c'est ouvert,
milieu
quoi. Ouais, c'est
où tu as
quelqu'un,
les
ouais, c'est.
fesses sur le trou. Ouais, exactement. La chaise de la torture, je
Ah ouais, pour toi,
l'appelle.
c'était pas cool.
Mais en même temps, ça, je pense, en 1 heure, c'est bon, je suis passée de. Et elle voulait absolument pas me vérifier mon col. Elle me disait non, tu vas y arriver, etc. Et moi, je voulais absolument vérifier le col. Parce qu'en fait, j'avais eu la première fois où des heures passées, je m'ouvrais pas. Et je voulais pas qu'en fait, ça se reproduise. Du coup, je leur disais, vérifiez que je m'ouvre bien. Et donc, elles m'ont vérifié, j'étais à 6. Et là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, yes, c'est bon. Je le fais, tu vois. Et du coup, ensuite, j'ai insisté moi-même pour qu'elle me vérifie. Mais sinon, vraiment, elles étaient juste présentes. Elles vérifiaient le cœur. Je me rendais même pas compte, en fait, de tout ça. Elles avaient un miroir sous le truc pour bien vérifier. Elles ne me touchaient pas. C'était phénoménal.
C'est comme ça
Magnifique.
que ça doit se passer, hein.
Exactement. Et ça, je l'ai
Et
compris plus tard.
bah ouais. Et donc au niveau des douleurs, donc en gros, c'est la dernière heure où tu dis que tu vas pas y arriver et tout, et quand tu es assise donc sur la chaise de torture, que tu trouves que c'est difficile, mais avant ça, c'était gérable et
C'était très difficile aussi, mais mon mental suivait, en fait.
ouais.
C'était très, très difficile aussi. J'avais beaucoup de contractions dans le dos. Mais mon mental était, oui, c'est pas grave, tu vas y arriver, etc. C'est vraiment à la fin où je ne croyais pas pouvoir être capable d'endurer ça.
Ok.
C'est la fameuse phase,
De
de
désespérance.
désespoir, hein, voilà, exactement, de désespérance. Donc, mais c'était très difficile, mais mon mental, je voulais tellement accoucher à la maison que mon mental, il a dit,
Ouais.
même pas en rêve, je vais vraiment à moins d'une urgence, je ne
Ouais.
vais pas à la maternité, c'est
Ouais.
mort.
Ouais. Ok. Et comment ça se passe la fin, la poussée?
Je pousse, je pousse, je suis à 4 pattes sur mon canapé. Et mon bébé sort, je le prends directement moi, du coup, dans les bras. Et là, ce que je n'avais pas connu lors de ma première, de mon premier accouchement, c'est l'euphorie. Je l'avais pas du tout connu. C'est une euphorie. J'étais vraiment dans les nuages et ça a duré quelques heures. Hein. Un truc, j'ai eu un shoot d'ocytocine que je crois rien que pour ça, je revivrai un accouchement, tu vois,
Ouais,
rien que
c'est
pour
clair.
ce moment-là. Et ouais, je me rappelle plus de rien. C'était un espace-temps. Vraiment, j'étais là. J'ai réussi et j'arrêtais pas de dire, mais j'ai réussi, mais j'ai réussi, mais j'ai réussi. Donc, j'étais très contente. Et le lien d'attachement, il s'est tout de suite fait. tout de suite, dans la seconde, ce qui n'a pas été le cas lors de mon premier accouchement. Donc, je pense que l'accouchement à domicile joue.
Ah oui, c'est sûr.
J'ai pas de doute, hein. Du coup, voilà, je souhaite vraiment à toutes les femmes de connaître ça, quoi. Ça devrait être la norme, hein.
Ah bah oui, comme bon, j'allais dire comme dans plein d'autres pays, mais c'est la norme presque plus nulle part maintenant, mais il y a plein de pays où c'est quand même
Bah,
beaucoup
au
plus
Portugal, il y a beaucoup, beaucoup
fréquent, quoi.
d'accouchements à domicile, hein.
Ouais.
Tu peux accoucher à domicile juste avec une doula, t'as pas besoin d'une sage-femme?
Ah ouais.
Ah bah
C'est
oui.
pas bah enfin en France aussi, hein, c'est juste que les gens te considèrent comme une folle, mais je sais pas si les Portugais te considèrent comme une folle, mais on a le droit en France, bien sûr. C'est
Je
juste
sais pas. Je sais pas. En tout cas,
mal perçu.
j'ai vécu l'expérience d'allaitement différente par rapport à la France. J'ai allaité de la même manière, etc. Et ici, franchement, les gens, ils m'encourageaient à allaiter. Ils étaient là, waouh, bravo, c'est génial, c'est magnifique, elle a de la chance. Voilà. Alors qu'en France, c'était, ah, oh, c'est dégueulasse, beurk. Vraiment.
Ouais.
Donc.
Oui. Mais en France, j'ai l'impression que c'est soit les gens t'encouragent à fond et si tu n'allaites pas, t'es une mauvaise mère. Mais bon, il faut allaiter que jusqu'à 6 mois. Parce que si tu dépasses les 6 mois, t'es une dingo, quoi. Enfin, t'es une perverse et puis t'es enfin, incestueuse, tout ce que tu veux.
On me l'a dit. On m'a
Donc
déjà dit que
c'est.
j'étais une
Ouais.
mère incestueuse.
Les gens sont absolument insupportables.
Oui, mais en fait, c'est là où je pense que pendant la grossesse, surtout la première fois, c'est super important d'être accompagnée. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. C'est tellement facile de se remettre en question. C'est tellement facile de se dire, mais j'ai tort. Ton bébé, il pleure, c'est à cause de toi. En fait,
Bien
c'est
sûr,
une
mais ouais.
période tellement vulnérable. Que pour moi, il faut être accompagné, c'est un non négociable en fait. T'as besoin d'être accompagné par une femme qui sait, qui s'y connaît, qui peut te conseiller, être proche de toi.
Et puis qui est bienveillante, et puis qui est pas dans le jugement, mais ça c'est hyper dur parce qu'il faut prendre le recul et se dire, ah, peut-être que je suis quelqu'un qui peut avoir tendance à juger, mais prendre
Bien
cette
sûr.
conscience-là, cette prise de conscience-là, elle est mais. Enfin, c'est tellement dur de l'avoir, quoi. Même quand t'es bienveillant,
Bien
te rendre compte
sûr.
qu'en fait, bah non, parfois tu chies dans la colle comme tout le monde.
Bien sûr. Et il faut avoir travaillé sur soi.
Ouais.
Et c'est moi, après, tu vois, moi, ce que tu viens de me dire, moi, je l'applique pour tous les travaux, enfin, tout ce qui est en rapport avec la thérapie, tous les thérapeutes de manière générale, que tu sois doula, que tu sois sage-femme, que tu sois naturopathe, que tu sois, etc. Il y a besoin de cette présence, cette posture thérapeutique, de non-jugement, de bienveillance, mais de réelle bienveillance, pas de la bienveillance. C'est ça aussi.
Ouais, de se rendre compte que parfois tu peux être très bienveillant, enfin, avoir envie d'être bienveillant. Et tu vois, je dis ça, j'ai
Bien
l'impression,
sûr.
j'insiste beaucoup, mais je sais que moi, j'ai longtemps été comme ça. Je pensais être très bienveillante, mais j'avais une idée préconçue des choses. Et si tu les faisais pas, bah, j'allais dire ce que je pensais. Et y avait du jugement. Et enfin, bref.
Bien sûr. Mais il y a besoin de savoir se remettre en question, c'est pas évident. Et
Non.
après, on évolue aussi, je pense.
Bien sûr.
On évolue,
En
heureusement.
devenant mère aussi, en devenant parent, où tu te décentres, enfin, oui, non,
Exactement.
c'est un
Et puis tu
chemin
te rends
hyper
compte à quel
intéressant.
point tu te juges toi-même. Parce qu'avant de juger les autres, tu te juges toi-même. Et quand tu deviens mère, je trouve que le jugement, l'auto-jugement, mal se juger, c'est hyper facile en fait.
Ouais, bien sûr. Ah bah tu portes tout, hein.
Bah, tu portes tout. Et puis la société en face, surtout quand tu es dans le maternage bienveillant, c'est comme si tu nages à contre-courant en fait. C'est
Ah,
épuisant.
complètement.
C'est épuisant. T'as besoin tous les jours, limite, de te. T'es dans cette position de allez, je fight avec qui aujourd'hui? Tu vois, tu vas chez un pédiatre, t'es en mode bon, aujourd'hui, je me prépare à fighter parce qu'il va me dire quelque chose. C'est pas normal, en fait.
Non, c'est clair.
C'est pas normal.
Et donc aujourd'hui, toi, donc tu as déménagé au Portugal, tu me disais au tout début de notre conversation pour. Bah pour en fait pouvoir faire les choix que tu voulais pour tes enfants et l'éducation que tu leur donnes et tout ça. Ouais, comment tu vis tout ça aujourd'hui?
Alors, la France me manque sur certains points. Franchement. Écoute, je sais pas si je donne la vie que je voudrais vraiment à mes enfants, parce que je sais pas si c'est possible sur Terre. Parce que j'ai vraiment une conception assez marginale, enfin, qui est considérée comme, voilà, Pour moi, je suis à fond dans tout ce qui est unschooling, homeschooling, mais vraiment, pour moi, unschooling, même l'école de la vie, le suivre son instinct, etc. Et c'est quelque chose qui est compliqué en Europe. Donc, je suis encore en train de naviguer ces eaux-là et je dirais pas que j'ai trouvé ce qui me correspond encore. En toute honnêteté, je le recherche encore. Voilà.
Et par rapport à la rupture du lien avec ta mère, comment tu navigues ça aussi?
Très bien. Franchement, ça a été très très compliqué. Mais en fait, alors, les gens, quand je leur parle de mon histoire, ils sont là, mais oh my God, comment tu fais? C'est dur, etc. Et en fait, c'est plus dur de vivre avec quelqu'un qui te martyrise que de vivre avec quelqu'un qui ne le fait pas. Le jour où j'ai rompu avec elle, ça a été le plus beau jour de ma vie. Vraiment. J'ai cheminé depuis, j'ai fait le deuil depuis. Après, est-ce qu'on fait complètement le deuil de sa mère? Point d'interrogation. D'une mère aimante. Que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être aimée par une mère. Je ne sais pas, en fait. C'est quelque chose que je ne saurais jamais. Donc, il y a tout un travail de reparentage vis-à-vis de moi, de reparentage de la petite fille intérieure que j'étais, de l'ado, etc., etc. C'est vraiment un cheminement et aujourd'hui, j'accompagne exactement là-dedans. En général, j'accompagne les personnes qui ont vécu ce genre de choses. Et en fait, devenir mère sans mère, c'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà.
Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et devenir mère, enfin, essayer d'être une bonne mère quand tu as eu un terreau défaillant. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Je ne sais pas encore si j'y arrive. On verra dans 30 ans, quand mes filles auront le recul. Et voilà ce qu'elles me diront. Zainab, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on se quitte?
Je n'ai rien qui me vient comme ça. Juste si, voilà, les personnes qui t'écoutent, s'il y a des femmes enceintes, je veux juste leur rappeler à quel point elles ont le pouvoir à l'intérieur d'elles, à quel point la grossesse, c'est le moment pour faire un choix éclairé sur plein de choses dans sa vie, sur comment je vais accoucher, sur qui sera là pendant mon accouchement, qui sera là après mon accouchement, comment se déroulera mon postpartum. Juste rappeler en fait à ces femmes qui deviennent mères que c'est elles qui détiennent ce pouvoir-là et que personne, personne n'a le droit de leur enlever. Voilà, c'est hyper important à comprendre et à conscientiser. Voilà, c'est vraiment mon objectif quand j'accompagne les mères, c'est de leur rappeler de leur plein pouvoir et de leur rappeler qu'elles sont reines de leur royaume. Voilà.
Ouais. Et puis que, enfin, parce que tu vois, j'adhère complètement à ce que tu dis, mais tu vois, moi dans ma tête avant, je comprenais pas ce que ça voulait dire et pour moi c'était, oui, oui, c'est ma vie, mais c'est quand même le médecin qui sait mieux que moi. Et je pense qu'il faut vraiment rappeler que c'est pas forcément le médecin qui sait mieux que toi. Et si, enfin voilà, l'avis médical, tu le prends et tu en fais ce que tu veux. Et si le déclenchement, ça ne te convient pas, ou X ou Y, proposition du système, si elle ne te convient pas, c'est toi qui décides et c'est toi, c'est ce que tu dis, c'est toi qui règne dans ton royaume.
Exactement. Mais d'où l'importance d'être accompagnée, parce que quand tu es enceinte, tu es vulnérable et donc tu as peur
Bien
de perdre
sûr.
ton bébé, tu as peur de faire plein de choses. Donc, si quelqu'un d'autorité qui vient devant toi, qui a fait 15 ans d'études, forcément, il va savoir mieux que toi. Donc, c'est hyper facile de se remettre en question et de pas être sûr de. C'est très facile, en fait. La bascule, elle est facile. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être accompagnée d'un village, en fait, d'une tribu, ce qui manque malheureusement. Hein. Mais c'est fondamental, à minima d'une doula qui est au courant de tout ça, bien sûr. Hein.
Oui. Il faut aussi trouver les bonnes personnes. Ça, c'est
Il
encore
faut
autre chose.
trouver les bonnes personnes. Elles existent. Elles sont pas hyper. Voilà, il y en a pas beaucoup, beaucoup, mais elles existent. Et ça se fait de bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui aident. Donc, c'est possible.
Ouais, complètement.
C'est possible.
Merci beaucoup, Zainab.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.